Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire avec les podcasts de la rédaction. Et aujourd'hui, podcast numéro 68, et oui, 68 podcasts déjà, avec vous et avec Julo, Angèle, Raon et moi-même autour de la table à repasser la plus célèbre d'Internet. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène vraiment qui nous touche quelque part un petit peu tous. C'est la fin des exclusivités sur nos consoles avec un grand point d'interrogation, même si nous avons pas mal de choses à dire, vous allez voir, et quelques certitudes qui commencent à émerger. Alors d'ailleurs...
la fin des exclusivités, surtout des éditeurs tiers, en fait.
Exactement, bien évidemment. Alors justement, j'aimerais partir déjà avec une information qui date d'il y a maintenant quasiment deux semaines. Il s'agit de Capcom qui annonçait la fin des titres qu'il développait en exclusivité pour telle ou telle console. Capcom qui finalement était assez habitué par le passé à faire certaines exclusivités. On se rappelle par exemple de l'accord qu'ils avaient signé avec Nintendo.
Et à les défaire aussi vite qu'ils les avaient faites.
Tout à fait, mais au moins, et ça on en parlera dans ce podcast, des exclusivités temporaires. On voit qu'aujourd'hui c'est quelque chose, même au niveau des temporaires, qui se perd complètement. Alors Capcom annonce la fin des exclusivités. On a vu aussi pendant l'été que Squaresoft, énorme événement finalement, c'était l'information de l'E3 2008, ouais. Final Fantasy XIII réservé à la PlayStation 3, eh bien non, Final Fantasy XIII qui, hors Japon, sortira aussi sur Xbox 360, ça a été un véritable séisme chez les joueurs, une joie colossale pour tous les fans de RPG sur Xbox 360, et forcément pas de tristesse. Même si certains l'évoquent pour les possesseurs de PS3, on a un peu de mal à le comprendre, même si finalement, on sait que peut-être que ça décalera un petit peu la sortie de la version PS3.
Ouais, c'est encore un petit peu flou. Hein.
Donc, oui, parce qu'on ne sait pas encore si les sorties seront simultanées ou pas.
En tous les cas, ils l'avaient annoncé comme ça pendant l'E3, mais ça a été plus ou moins démenti par la suite par Squaresoft, qui dit qu'en fait, ils n'ont pas commencé le développement sur 360. Exactement. Et qu'ils ne le développeront, ils ne commenceront pas tant que, qu'ils n'auront
pas fini la version PS3. Tout à fait. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce podcast, petit rappel très rapidement qui va permettre de prendre le pouls un petit peu de la situation. La génération de consoles précédente, on avait quand même des titres comme Resident Evil, qui était au moins temporairement resté une exclusivité pour la GameCube. On avait les Final Fantasy, véritable exclusivité pour la PlayStation 2 et à l'époque aussi pour la PS1. PES, Pro Evolution Soccer, exclusivité sur les consoles Sony. On avait GTA, qui pendant très très longtemps était resté exclusivité de la PlayStation, en tout cas suffisamment pour que le gros des ventes et l'impact se fassent sur les consoles PlayStation. Eh bien, tous les titres que je viens de citer, aucune de ces exclusivités n'a été maintenue sur cette génération de consoles. Et bien sûr, je pourrais citer bien d'autres titres. Des jeux qui étaient très connotés PlayStation sont aujourd'hui tombés, entre guillemets, dans le domaine public. Et certains titres sur Xbox, pareil, ont fait le chemin aussi sur PlayStation 3. En sachant que là, oui, on en parlera en fin de podcast, est vraiment un cas à part, puisque finalement, avec sa jouabilité si particulière, eh bien, elle pousse les éditeurs à faire des exclusivités. Parce que de facto. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cette situation? Il faut juste rappeler qu'en mars dernier, en 2007, donc il y a maintenant, je crois, 61 podcasts, on avait déjà évoqué un petit peu le sujet, on avait déjà souligné un petit peu que ça commençait à... La donne
en fait,
commençait
on se posait
à changer.
La question, ouais, de
exactement.
Savoir ce que et
aujourd'hui,
était bon ou pas bon pour nous.
Tout à fait. Plus d'un an et demi après, la question est d'autant plus d'actualité. Et finalement, on posera aussi la question en fin de podcast. Est-ce qu'on se dirige bon an mal an vers la console unique? Ou en tout cas, est-ce qu'elle commence à avoir un vrai sens, puisqu'il n'y a plus vraiment d'exclusivité? Ou est-ce que ça va pousser les développeurs à faire des consoles vraiment différentes, comme on le voit finalement en fait, sur les consoles portables? Autant de questions dont on va tenter de répondre dans ce podcast. Qui veut commencer à prendre la parole, faire part un petit peu de son sentiment sur la question?
Raon.
Généralement, dans ce genre de cas, effectivement, j'ai tendance à dire qu'on se tourne vers Raon. Qui accepte avec bonheur.
Et qui n'a pas trop le choix, de toute façon, j'ai l'impression. Donc, alors, en ce qui concerne la fin des exclusivités d'éditeurs tiers, personnellement, je ne pense pas que ça soit forcément une mauvaise chose. Moi, je suis un petit peu beatnik dans le sens où.
C'est même forcément une bonne chose.
Forcément, il y avait l'histoire de l'optimisation.
Il y a des questions techniques.
Le nivellement par le bas, tout ça.
Voilà, donc effectivement, de ce point de vue-là, c'est pas forcément une bonne chose. Maintenant, on est arrivé suffisamment loin techniquement pour qu'on puisse avoir de très bons jeux sans forcément que ça soit de l'optimisation au dernier carat.
Alors justement, je t'interromps deux secondes. On a vu qu'au début, il y avait des petits soucis avec les jeux multi.
Sur PS3,
les versions PS3 étaient moins abouties techniquement que les versions Xbox. On voit qu'aujourd'hui, maintenant, après plus d'un an et demi de vie de la console, finalement, ça c'est...
Enfin, c'est rien d'illogique par rapport... Techniquement, c'est normal qu'ils aient eu du retard à l'allumage.
Voilà.
Quoi.
Mais c'était néanmoins... une question de timing aussi parce que la Xbox étant sortie plus tôt, toutes les versions lead, donc celles qui concernent le premier développement, étaient sur Xbox et donc après il fallait les adapter sur PS3.
Qui est une architecture très différente.
Depuis un certain temps, ils développent soit les deux en même temps, pas dans le cas de Final Fantasy, mais dans la plupart des cas, elles sont développées en même temps et optimisées en même temps.
Oui, Angel.
Ouais, mais justement, les éditeurs, les gros éditeurs sont complets dessous maintenant, ont bien compris, et ils lancent carrément ces deux développements indépendants, quoi. C'est pas juste une conversion. Et forcément, ça coûte beaucoup plus de pognon, mais au moins les deux versions sont identiques.
Alors, ce qui est intéressant, justement, c'est peut-être qu'aujourd'hui, on va justement arriver à un cas inverse, puisqu'on l'a évoqué sur Gameblog.fr il n'y a pas très longtemps. Des développeurs qui commencent à souligner le fait qu'on arrive peut-être aux limites technologiques de la Xbox 360. Ce qui pourrait s'expliquer par le fait que déjà son architecture est plus proche du monde PC et que du coup les développeurs ont une plus grande habitude et donc optimisent peut-être plus rapidement, ont poussé la machine peut-être plus haut, plus vite. Et est-ce que du coup la PS3 qui a encore énormément de ressources, a priori, du coup va pas en pâtir un petit peu du fait que le multi ne va pas permettre d'aller puiser vraiment au fond de la puissance de la PS3 ?
Pour ce qui est des titres multi-support, oui, si un développeur a effectivement choisi de sortir son titre dès le départ sur les deux consoles de salon, les deux, donc 360 et PS3, puisque oui, on y reviendra tout à l'heure, c'est une problématique un peu différente, ils seront effectivement obligés de s'adapter aux forces et aux faiblesses de chacun. Ceci étant dit, la PS3 a aussi probablement... quelques faiblesses que la 360 pourrait ne pas avoir si le titre avait été développé uniquement sur 360. Pour certains cas particuliers, j'imagine que c'est le cas aussi. Et donc, les deux, c'est pour ça qu'on parle de nivellement par le bas, les deux vont se refiler leurs défauts par rebond.
Justement, est-ce que c'est pas là où le multi, finalement, en tout cas pour les vrais gamers, ceux qui aiment qui est vraiment une progression technologique, qu'on en voit toujours des images de plus en plus belles, des jeux de plus en plus riches, est-ce que finalement ce multi n'est pas un petit
inconvénient ?
Je pense
pas, parce que pour une raison qui est un peu toute conne, c'est que on ne peut pas savoir ce qu'on rate puisqu'on le rate, tu vois ce que je veux dire ? À part les jeux qui resteront eux des exclusivités, qui sont les jeux first party ou second party, c'est-à-dire les studios qui travaillent qui appartiennent partiellement ou complètement aux constructeurs, on n'aura pas forcément de moyen de savoir ce que tel ou tel autre jeu qui est sorti en multisupport lui
aurait pu donner
s'il avait été réservé à une console. De toute façon, avant tout ça, si aujourd'hui on en est à parler effectivement de la fin des exclusivités, sachant qu'a priori la dernière grosse exclue qu'il y a eu en éditeur tiers, c'est Metal Gear Solid 4 sur PS3. Déjà, je ne suis pas persuadé forcément que Metal Gear Solid 4 n'aurait pas pu sortir sur 360 d'une manière ou d'une autre.
Mis à part justement, et c'est un des problèmes de limitation hardware en termes de stockage. Justement.
Oui, à part le Blu-ray. Ouais. Mais encore une fois, tu peux aussi faire un jeu en plusieurs DVD. Tu vois, enfin, je veux dire, sur Metal Gear 4, en l'occurrence, tu as une installation qui a lieu à chaque acte. Tu peux avoir un DVD par acte. Tu vois, ils auraient pu se démerder.
Quand même. 4 actes, oui. Enfin, 5 actes.
Ils auraient pu trouver des solutions, probablement.
Le Steady Save, il fait combien de DVD ?
Je crois qu'il en fait 4.
Voilà. Ouais, il me semble.
Mais le truc, c'est que oui, mais attention, parce qu'après, il y a un prix. Hein. Je crois que justement,
il y a un coût de fabrication.
ID Software qui parle justement, qui était plutôt pro Xbox 360 en disant qu'il y avait des faiblesses sur la PS3. Comment il s'appelle ? J'ai un trou de mémoire là soudainement.
Lequel ?
John Carmack.
Oui, John Carmack,
c'est le codeur. Qui parlait des problèmes de la PS3 et qui est en train de changer un petit peu d'avis. Alors, non, les problèmes sont toujours les mêmes problèmes, mais que. La version de son prochain jeu Rage serait peut-être meilleure sur PS3 parce que justement grâce au Blu-ray il pourrait mettre toutes les textures etc, alors que sur Xbox on l'a peut-être compressé, il savait pas trop comment faire, qu'après il y avait des coûts de développement supérieurs s'il fallait des royalties pour deux DVD sur Xbox 360, c'est des
soucis. Mais quoi qu'il arrive, on se rend quand même bien compte que à l'heure actuelle il se pose plus la question de l'exclusivité. Ils se posent la question de comment est-ce qu'on fera sans l'exclusivité. Ils sont confrontés et ils se confrontent naturellement plus facilement au fait qu'ils sont obligés de développer en multi-support, avec tous les problèmes que ça comporte et dont on est en train de parler, que le reste. Quoi.
Mais j'ai vraiment envie de poser la question. Aujourd'hui, est-ce qu'un éditeur, de manière réaliste, peut se permettre de ne pas faire justement du multi? Lorsqu'on voit quand même les temps de développement de ces jeux, c'est 2, c'est 3, c'est parfois plus de 4 ans. Prenons le cas de Resident Evil 5. Resident Evil 5, Capcom a annoncé plus de 400 personnes en tout qui travaillent sur ce projet. Probablement pas tous à plein temps.
Il y a des phases de production.
Ça fait quand même, rien qu'en part salariale, une énorme dépense pendant plusieurs années pour amortir un tel jeu. c'est sûr qu'on se dit que bah, peut-être 2 millions sur PS3, plus 2 millions sur Xbox 360, plus X millions peut-être sur PC.
Si
ça
on reste sur l'économie,
il
y a toute une frange de l'économie du jeu qu'il ne faut pas oublier, parce que même si ça coûte plus cher de développer peut-être en multi-support, parce que tu dois résoudre un certain nombre de problèmes techniques, ça ne coûte pas plus cher en termes de marketing. Mmh. Alors que le même marketing sur la marque du jeu lui-même, c'est-à-dire un Resident Evil, un PES, un machin, c'est la même dépense. Et si tout le monde peut le trouver, quelle que soit la console qu'il a, t'as pas dépensé un iota de plus, mais t'as fait le même marketing sur, sur ton truc avec une, potentiellement plus de maisons pour pouvoir héberger ton produit. Quoi.
Oui, aujourd'hui, vraiment très rapidement, c'est pas les chiffres exacts, mais enfin bon, on va dire que le découpage, c'est à peu près 20 millions dans le monde hein, de PS3, 20 millions de Xbox 360, à peu près, hein, et un petit peu plus 25 millions pour la Wii. Donc en gros, il y a un marché de 65 millions de joueurs équipés de consoles actuelles.
De salon, ouais.
De salon. Bon, bah c'est sûr que si on peut toucher les trois en même temps, plutôt que se limiter à un tiers, enfin se retirer justement deux tiers du marché, c'est sûr que, franchement, économiquement parlant, aujourd'hui...
Tu peux quand même tenter le coup. Hein. Enfin, Konami s'en est très bien sorti avec Metal Gear 4, mais c'est prendre un risque supplémentaire que tu n'as pas forcément envie de prendre, justement, comme tu disais, par rapport au coût de développement. Parce qu'un flop à ce niveau-là, quand un jeu t'a coûté beaucoup plus de pognon qu'il t'a coûté il y a 10 ans,
c'est la distribution de risque, c'est très important.
C'est un risque beaucoup plus énorme qu'il ne l'était.
Cela dit, Konami ne doit pas ignorer que s'ils avaient sorti une version 3.6, ils en auraient vendu plus.
Et puis, il n'y a pas de fumée sans feu. S'il y a autant de rumeurs qui ont eu, etc., c'est bien que les gens. Ils pensent et que
Là, ce qui serait intéressant de savoir, justement, c'est combien, parce qu'on sait que ce genre, quand il y a une exclusivité, c'est rarement de bonté d'âme, hein, de charité chrétienne. C'est donc, a priori, le constructeur, donc Sony en l'occurrence, a dû donner quelques deniers à Konami. Il faut savoir, on sait que par exemple, Microsoft a payé son exclusivité du contenu additionnel de GTA 50 millions de dollars.
C'est quand même, on le sait pas, mais
voilà,
c'est
ce qui. Ouais. Voilà, on sait que le jeu en lui-même, le GTA 4, a coûté 100 millions. Ça veut dire que 50 millions supplémentaires juste pour du contenu additionnel, c'est colossal.
C'est démesuré.
Bon, combien Sony a donné pour Metal Gear, et est-ce que c'est la même chose que s'il avait sorti aussi sur Xbox? Est-ce qu'il se retrouve dans ce genre de calcul?
Enfin,
peut-être pas.
En tout cas,
c'est difficile à dire aujourd'hui.
On va dire chèque à part en termes de vente, Konami s'y est quand même retrouvé. Donc voilà, tu vois, c'est encore un coup que tu peux tenter.
Très honnêtement, on ne sait pas si Konami s'en est si bien retrouvé.
Le jeu a coûté quand même très
ouais,
cher.
Ouais, franchement, on ne sait pas. On sait qu'ils ont vendu à peu près 3-4 millions d'exemplaires de Metal Gear Solid 4. Le jeu a coûté plus de 50 millions de dollars, ça c'est ce qu'on sait.
Ouais, ça tu rajoutes le marketing.
Tu rajoutes le marketing. Ça va vraiment dépendre de ce X, de cet alpha qui est combien.
Et puis de la pérennité du jeu, combien de temps est-ce qu'il va se vendre aussi, est-ce que ça se vend dans la longueur ou pas.
On sait absolument pas si Metal Gear Solid 5, car il y aura un Metal Gear Solid 5, bien évidemment, sera une exclusivité encore pour telle ou telle console.
Ça sera peut-être pas un solide, mais ça sera un Metal Gear. Hein,
tout à fait. Ouais. Autre chose que je voulais dire, c'est qu'effectivement, par le passé, à l'époque de la Super Nintendo, où il y avait pléthore d'exclusivités, qu'elle soit pour la Mega Drive, qu'elle soit pour la Super Nintendo, il y avait vraiment une console qui prédominait, et assez rapidement dans les générations ça a été la Super Nintendo. À l'époque de la génération d'après, c'est vrai que la PlayStation a pris un vrai vrai trou.
La question se posait pas trop non plus, parce que la Saturn était encore beaucoup sur la 2D.
Mais aujourd'hui, c'est vrai, quand je donnais le ratio, une fois de plus, vraiment, c'est pas qu'on l'aime pas, hein, mais c'est qu'elle est très spécifique. La Wii est vraiment un marché à part, et on va y revenir un petit peu plus tard, parce que finalement c'est elle qui se paye le plus d'exclusivité, même si c'est les mêmes jeux, avec les mêmes noms, le nouveau, je sais pas quoi, mais c'est pas le même gameplay, donc finalement c'est un jeu exclusif avec la même licence. Mais finalement, si on compare PS3 et Xbox, aujourd'hui, ça sera peut-être pas la même chose dans 3 ans, mais enfin aujourd'hui, les deux consoles sont dans des eaux assez avoisinantes, et du coup, bon, bah, faire une exclusivité sur l'une, tu perds quand même quasiment 50% du marché. Hein.
Ouais, mais attention, les écarts non seulement se réduisent, mais la PlayStation 3 est en train de se vendre maintenant, est passée super en tête par rapport à l'Xbox.
Ah bah pas du tout au niveau monde.
Alors, pas du tout au niveau monde.
Si ça accélère, on sait très bien que le ratio entre les deux, ça sera jamais comme dans les générations d'avant où il y avait vraiment un dominant.
D'autant
dominé,
que
quoi.
La PS3, tout comme la Xbox 360, bien sûr, hein, mais beaucoup de mal au Japon, hein, très clairement, et que ça, c'est une vraie nouveauté. C'est-à-dire que la PS2 avait vraiment réussi à s'imposer au Japon rapidement, et il y avait un fossé colossal entre la PS2 et la Xbox. Aujourd'hui, il n'y a pas ce même fossé entre la PS3 et la Xbox 360, même si la PS3 est au Japon. Ah non,
il y a un vrai fossé.
Il y a un vrai fossé, mais c'est pas du tout le même qu'entre la PS2 et la Xbox 360. Et au niveau mondial, la PS3 est encore derrière la Xbox, et la Xbox continue encore aux États-Unis très clairement très très bien vendre chèrement sa peau.
Ce qu'on va voir aussi, c'est qu'elle a baissé partout maintenant. Bah ouais. Donc on verra aussi l'impact que ça peut avoir parce qu'il y a aussi cet avantage tarifaire, c'est que si effectivement il n'y a plus de grandes exclusivités du côté des éditeurs tiers.
Quel est fondamentalement l'intérêt d'avoir une PS3 par rapport à une Xbox 360
si
ce sera le Blu-ray.
Voilà, si t'es pas intéressé
mais
par les films.
Là,
mais après,
et les exclusivités first party.
Voilà, qui elles ne bougeront évidemment pas.
Alors justement, intéressons-nous un petit peu à ça. Est-ce que du coup. C'est pas vraiment l'importance de ces développeurs qui va être prédominante. Et du coup, les rachats qu'a opéré Microsoft ces dernières années vont peut-être porter leurs fruits maintenant et de voir que finalement, il y a de plus en plus de gros jeux qui sortent aussi du côté de chez Sony en première partie. Ils vont devoir se renforcer chacun, peut-être essayer de racheter des studios encore plus. Accélérer ce genre de phénomène pour justement se payer
aussi,
l'exclusivité.
Il y a aussi un phénomène global de consolidation aussi sur les éditeurs tiers qui se bouffent les uns les autres pour assumer les coûts de développement de leurs jeux en multi-support. Il n'y a pas de raison effectivement que les constructeurs n'essayent pas de continuer à grossir.
Bah, d'ailleurs, la nouvelle voie finalement, c'est de sortir les jeux sur les deux supports et après de faire des exclusivités. Tu parlais GTA 4
voilà.
Tout à l'heure avec le contenu téléchargeable.
Ça, c'est... Juste, on va y revenir clairement dans quelques
D'accord.
minutes, mais finissons déjà sur ce point-là. Qu'est-ce que vous en pensez sur le... Est-ce qu'il va y avoir une accélération, en tout cas une volonté vraiment des constructeurs d'essayer de se payer des exclusivités grâce à des studios
évident,
qui vont racheter.
C'est déjà le cas, quoi. Enfin, on voit bien la politique de Microsoft
ouais, mais
rien
ça,
pour le Japon,
ça
pour
très cher
Japon,
sans forcément rapporter tant que ça d'argent.
Voilà, on verra si ça marche vraiment, quoi. Je pense, enfin le La pierre de Rosette, ce sera le contenu additionnel de GTA 4, quoi. On verra s'il marche vraiment, si ça vaut le coup, les autres éditeurs continuent.
Ah bah
quoi.
Moi je dirais qu'on a déjà, si on voit GTA, une première partie de réponse, puisque au niveau mondial, GTA 4 c'est plus vendu sur Xbox 360 que sur PS3. Alors certes, il y avait plus de Xbox 360, mais on peut se dire aussi qu'il y a pas mal de gens qui ont choisi la version Xbox 360 en se disant, bah plus tard j'aurai l'exclusivité du téléchargement.
Ouais, mais on verra si les gens achètent vraiment le contenu additionnel, parce qu'il sera pas gratuit ce contenu. Tu vois,
je pense que ça va cartonner.
Il faudra le payer, mais on verra.
On n'a pas d'information.
Non,
sur
on verra si Microsoft arrive à rentabiliser.
Ça sera évidemment payant. Pourquoi tu crois qu'ils ont mis 50 millions de dollars sur la table?
Attends, ils te font payer des pauvres icônes, franchement.
C'est vrai. Une absence de ma part. J'avais oublié cette histoire.
C'est vrai, ouais, les
icônes qu'on peut, enfin, photos qu'on ne peut même pas voir avant. Donc on ne sait même pas si ce qu'on achète est bien. Ça, c'est, je trouve un truc mais ahurissant. Quoi, mais, bon.
Mais c'est surtout que c'est gratuit ailleurs.
Tu vas sur Internet, sur de l'Internet, hein, puis tu télécharges des fonds d'écran. Quoi,
ouais, mais ils profitent que ce soit une console bien fermée et que tu sois obligé de.
Bon, bref, mais effectivement, l'exclusivité, pour finir et essayer peut-être de conclure sur ce point-là, l'exclusivité des jeux première partie, donc des constructeurs ou des développeurs qu'ils possèdent au moins en partie, c'est très important pour l'image, pour essayer de se différencier. C'est obligatoire sur un même marché que chaque produit ait son identité. Donc les jeux donnent leur identité à une console encore, même
mais
si
oui,
du côté
puis...
de Sony, ils jouent aussi beaucoup sur l'identité multimédia, machin, etc., Blu-ray à haute définition.
Enfin, pas seulement, enfin, dire ces exclus là elles vont pas partir, elles vont jamais partir, et quelque
justement.
Part aujourd'hui c'est les plus fortes, quoi.
Oui, mais ça veut pas pour
Gran
autant dire
Gran Turismo c'est ce qu'il y a de plus fort sur PlayStation.
Oui, mais ça veut pas
Mario
pour autant dire
sur Wii etc.
Oui, mais ça veut pas pour autant dire que les constructeurs vont continuer à acheter énormément de studios pour s'assurer plus d'exclusivité qu'ils n'en ont pour l'instant, parce que l'achat d'un studio c'est quand même très cher, et il y a beaucoup de cas aussi où tu vois que finalement tu n'as pas forcément un retour sur investissement qui est à la hauteur.
Rare.
Et la question c'est ce qu'ils ont envie
de prendre le cadre rare, c'est pas
bon,
forcément...
Ça va, il commence maintenant à un petit peu revenir, mais il y a eu quand même une sacrée période de creux où tout le monde pensait que l'achat de rare était vraiment quelque chose
d'énorme.
Attends,
c'est quoi le dernier bon joueur rare?
Bah Viva Pignata par exemple, c'est très bien, ça se vend bien, et voilà.
Ah non,
c'est un sleeper.
Viva Pignata c'est un super four commercial.
Non, c'est un sleeper hit, il continue à vendre.
C'est un sleeper hit.
Oui, tu vois, c'est un sleeper, non, c'est un vrai four.
C'est un SH.
C'est un vrai four. C'est-à-dire, ils ont sorti le deuxième parce qu'ils insistent et tu vois, ils ont raison d'y croire, mais
surtout qu'ils ont fait le même jeu.
Ils ont
jeu
envie d'avoir envie. Envie de...
Non, mais commercialement, c'est un four. Mais parce que la communication.
Et le dessin animé, tu l'as déjà vu.
La communication était super pourrie.
Hein, tu devais lancer un dessin animé en même temps.
Sûr, non, j'ai pas vu. Mais de toute façon, en dehors du prix même que Rare a coûté à Microsoft, dont je me souviens plus, mais c'était très très cher déjà à l'époque. Les gens derrière, faut continuer à les payer. C'est des coûts qui sont dans la longueur. Et après, qu'est-ce que ça produit, qu'est-ce que ça sort.
Mais est-ce qu'ils ont besoin vraiment d'en acheter de nouveaux?
Voilà, pas vraiment. Pour l'instant, ils ont.
Non, mais ils ont leur licence. Ils ont voilà quoi, ils ont leur Gran Turismo, leur Mario, leur
leur Fable, il y a leur Halo, il y a leur machin. Voilà. Oui, donc je pense pas qu'ils consolident beaucoup là-dessus, mais ça coûte vraiment très cher pour pas forcément grand-chose et qu'il leur faut juste un minimum, un petit peu de ça pour garder leur image et pour se différencier. Mais c'est pas ça qui leur apporte de l'argent. Et mine de rien, c'est quand même ça le plus important, c'est que ça leur apporte de l'argent, pas qu'ils aient une super image et des super produits.
Ouais. Alors est-ce que justement vous pensez pas que on a commencé à l'évoquer que la vraie nouveauté, la vraie guerre de l'exclusivité, parce que mine de rien, elle est importante en tout cas pour les constructeurs, parce que si tout le monde est pareil. Bah,
il faut motiver le choix.
Comment investir de l'argent dans la commercialisation
même pour les d'une
nouvelle
même pour les éditeurs tiers, c'est vachement rassurant qu'il y ait cette voie-là quelque part parce qu'ils
devaient tout bénéfice.
C'est tout bénéfice. Et avant quelque part, ils pouvaient même être un peu sous pression par les constructeurs. Tu vois, Sony pouvait mettre la pression sur un éditeur tiers éventuellement, etc. Là, ils sont peinards quoi. Ils font leur jeu, comme tu disais, ils partagent le marketing pour toutes les versions d'un même jeu. Et ils font un petit bonus comme ça, et comme ça les constructeurs sont super contents parce qu'ils communiquent dessus et tout. Et
ils payent même pas la communication forcément, puisque voilà. Les épisodes supplémentaires, ça va être Microsoft qui va beaucoup en parler.
Et puis ils vont les mettre en avant de même sans que les éditeurs aient rien à payer sur le Xbox Live, sur le PSN, avec des grosses mises en avant et tout. Voilà.
Alors là, on a parlé de GTA.
Gagnant-gagnant.
GTA 4, effectivement, qui aura des missions ou même peut-être des scénarios de l'histoire, des épisodes supplémentaires. Exclusif à la Xbox 360.
Dans quoi, pardon ? Attends.
GTA 4.
Ah, dans GTA 4, oui.
On sait que de son côté, Sony souhaite réagir. Et donc, on a eu des annonces récentes sur de l'exclusivité de téléchargement. Alors, de contenu additionnel, ça reste encore très flou, concernant Mirror's Edge, qui est un jeu Electronic Arts, qui sortira sur PS3 et Xbox 360, mais donc avec du contenu en plus sur la PS3. On aurait envie de dire que ça n'a pas forcément exactement le même impact non plus que GTA 4.
Mais
la preuve qu'ils veulent obtenir des choses à eux.
Ouais, et puis le nous, on s'en fout, quoi. Très, très honnêtement, non ? Moi, perso, j'ai pris la version Xbox de GTA pour cette raison, mais tu vois, c'était au cas où, etc., parce que je le savais.
Mais si tout le monde pense comme toi, c'est tout bénef aussi pour celui qui a payé.
Ouais, mais tout le monde pense pas comme nous. Nous, on est des gamers avertis, etc.
Pour toi.
Oui, parce que je pense qu'il y a quand même énormément de gens parmi les millions et millions de gens qui achètent GTA qui sont même pas au courant qu'il y a du contenu additionnel va arriver. Hein. Ouais, ouais.
Et puis, franchement, est-ce que ça intéresse tout le monde le contenu additionnel, quoi ? Moi, par exemple, très honnêtement, une fois que j'ai fini l'aventure principale, je pense que j'en aurais rien à foutre. J'aurais tourné la page.
Surtout dans le cas de GTA 4, ils ont absolument rien dit dessus. On sait pas si c'est. Tu vois, il y a des fantasmes, genre une nouvelle ville, une nouvelle histoire, etc. Ça va peut-être être des bagnoles.
Non.
Ils vont
à 50 millions la bagnole, putain.
Pourquoi tu crois
nucléarise Rockstar.
Pourquoi tu crois qu'on en entend pas parler en fait
pour l'effet de surprise.
Non, mais bien sûr, ouais.
Parce que
ils sont en train de mouliner, à mon avis. Enfin, tu vois, ils doivent être en train d'essayer de s'entendre.
Ah, tu le sens pas, toi, le.
Je sais pas, excuse-moi, mais on en parle. Il y avait une première annonce. Après, c'est que des rumeurs aussi. On avait entendu parler la première fois pour le mois d'août. La dernière news, c'était pour la rentrée.
C'est pour novembre.
Ouais. Mais
moi, tu vois, je vais te dire un truc.
Moi, ils ont des problèmes techniques.
Attends, je vais te dire un truc hautement intellectuel.
Oh, tu parles trop, tu fais chier.
Je pense que vraiment, le contenu de GTA 4, il va être monstrueux pour une simple et bonne raison. C'est que Rockstar est en train d'investir pour GTA 5 et qu'ils vont faire monter les enchères de manière colossale en disant regardez pour 50 millions de dollars ce qu'on fait. Bon, maintenant Sony, Microsoft et peut-être Nintendo, parce qu'on voit quand même que Rockstar est en train de se rapprocher de plus en plus de Nintendo. Vous voulez la prochaine exclue contenu additionnel pour GTA 5?
Eh bah tu payes
ça sera bien plus que 50 millions de dollars si vous le voulez. Et regardez, on a tellement bien bossé que vous serez ravis du
vous contenu. En aurez pour vos thunes.
Vous en aurez pour vos thunes. Et que je pense que c'est déterminant autant pour Microsoft que pour Rockstar, qui peut se ramener une manne supplémentaire énormissime. Finalement, avec le même jeu, ils ont déjà un peu toutes les textures, les décors, etc. Ils ont juste qu'à recréer des histoires pour 50 millions. Donc je pense qu'on va être surpris et que ça va être juste changé.
C'est certain que c'est beaucoup plus rentable pour Rockstar.
Mais grave.
50 millions pour du contenu additionnel que tout le prix qu'ils ont investi pour l'ensemble du reste.
J'ai envie de rajouter, mais grave.
Et bizarrement, ça n'a pas grand-chose à voir, mais presque. Mais bizarrement, à côté de ça, tu vois, t'as les super bons élèves chez Criterion, t'as Burnout Paradise. Les mecs, ils arrêtent pas de filer du contenu additionnel, mais des vrais trucs intéressants. Là, ils vont balancer les motos et tout ça, c'est gratos.
C'est vrai.
Tu vois. Et alors que franchement, enfin tu vois, c'est le genre de contenu pareil. Là, ils pourraient vraiment le faire payer. Et
c'est l'un des jeux le mieux servi en contenu additionnel.
Ah, complètement,
mais grave à fond.
Mais
à fond.
Peut-être aussi parce qu'il a un peu moins bien marché. Hein, et il a bien marché, mais c'est pas non plus un carton colossal comme.
Ouais, ben
l'attendait.
Mais à côté, t'as des tas d'exemples de trucs qui ont pas marché. Regarde Forza avec ses circuits ou des. Voilà.
Non, mais je pense que justement, et GTA, et c'est d'autant plus pour ça qu'à mon avis, c'est très important et qu'il va vraiment se passer quelque chose. C'est que je pense qu'aujourd'hui, le contenu additionnel, c'est vu par beaucoup de joueurs comme toujours un peu décevant. C'est des nouveaux circuits, c'est des nouveaux trucs, mais c'est pas un truc fantastique. Et je pense qu'avec GTA 4, on va vraiment avoir bah, comme une nouvelle histoire, et que c'est peut-être le début des vrais nouveaux contenus additionnels, un peu épisodiques finalement.
Oui, oui.
Il y a des rumeurs sur peut-être ce serait... une nouvelle campagne pour Halo aussi,
ce serait le
que
début
Microsoft pourrait lancer d'ici quelques mois. Des rumeurs quand même de plus en plus persistantes.
Ce sera donc l'arrivée de l'add-on sur console.
Ouais, oui. Bah ouais. Et sauf que si l'add-on, tu peux le vendre genre $15 et que ça t'a
bah,
pas.
Tu, sur PC, tu les as toujours vendus les add-ons.
Bah ouais,
hein,
donc je pense que ça arrive. Je pense vraiment que ça arrive et qu'on est à l'émergence de quelque chose de ce fameux contenu épisodique qui sera différent. Ce sera pas des nouvelles histoires.
Qui va encore vider ton portefeuille.
Voilà, Charles Cécile, il avait pas complètement tort finalement.
Charles
Cécile,
si tu nous entends.
Oh putain,
je te kiffe, mec. Ouais. Ouais, attends, ouais. Je le kiffe vraiment, ce mec en plus.
Ouais. Moi, il m'a fait passer des cauchemars. Ouais. Mais bon, In Cold Blood. Mais je pense que ça arrive. Il y a quelque chose qui est en train de vraiment de se jouer là et que bah, le mot exclu...
C'est vrai qu'il y a un transfert. Et puis, en plus, on n'en est qu'au début, mais les jeux en ligne... Parce que ça aussi, je veux dire, il y a des exclusivités qui se signent aussi sur le Xbox Live Arcade, par exemple, ou le PSN. Même si, par exemple, quand Capcom dit on ne fait plus d'exclusivité, c'est on ne fait plus d'exclusivité. C'est-à-dire que tous les titres
à venir de Capcom,
en téléchargement seront aussi bien sur le Xbox Live que sur le PlayStation Network.
Super
mais
bah,
à côté de ça, d'autres... développent des jeux qui sont donc forcément des jeux qui coûtent moins cher, donc là ils peuvent peut-être se permettre effectivement de rester sur un modèle où l'exclusivité est plus intéressante pour eux.
Et à la fois j'ai envie de dire qu'à partir du moment où quasiment tout le monde ou les gros deviennent tous multi, bah ça casse aussi un peu les mentalités, enfin en tout cas ça les fait évoluer et bah, je me demande si le poids de l'exclu va avoir de plus en plus d'importance. On a eu des réactions d'ailleurs, des déclarations de certains membres de chez Sony qui disait que l'exclu était plus si importante qu'auparavant, etc. Néanmoins, je trouve ça un peu étrange aussi, je trouve ça un discours un peu ambivalent, parce que si on n'a plus d'exclusivité, et si finalement bah, toutes les consoles proposent la même offre ludique, bon, la PS3 aujourd'hui se distingue par le Blu-ray par rapport à la Xbox 360. Mais sur la première génération prochaine génération de consoles, s'il n'y a pas de différence hardware et donc pas non plus de différence ludique, très honnêtement, je pose la question... À quoi ça sert qu'il y ait plusieurs consoles ?
Bah les first party, et puis eux, ils ont intérêt à imposer chacun leur hardware.
Quand on connaît le coût de développement d'une console, d'une nouvelle console, le coût marketing pour imposer une nouvelle machine, l'argent qu'on perd sur une nouvelle machine...
Attends, ils font pas ça pour plaisir. Microsoft comme Sony, ils font ça pour imposer leur machine dans le salon des gens. C'est ça le cœur, le nerf de la guerre, c'est ça.
Oui, mais regarde, Sony, ça les intéresse parce que ça leur fait gagner la bataille sur un format en particulier. Microsoft le joue sur le... va jouer, lui, pas sur un format physique mais sur la distribution numérique.
Mais la prochaine baston ça va être sur la distribution numérique, voilà. Et ce sera pareil, chacun voudra imposer sa machine, quoi. C'est normal.
Et là, la distribution numérique, si on parle de films et tout ça, Sony mettra encore en avant, tu vois, l'avantage qu'il a avec Sony Pictures et tout le bazar, tu vois. Il y a toujours, enfin, on reviendra toujours.
Ils vont toujours jouer sur quelque chose, voilà. Ils vont toujours vouloir imposer eux leur machine. Il y a aucune raison.
Mais la console en elle-même n'est plus importante en soi. C'est juste un cheval
de Troie,
un prétexte.
Pour nous, non. Mais pour eux, enfin, ça reste le cœur du problème, quoi. Pour les constructeurs.
Alors justement, évoquons maintenant le cas de Nintendo, parce que. Justement, c'est l'exemple typique d'avoir imposé une boîte qui finalement est la clé pour eux de toutes les exclusivités. Puisque avec ce gameplay radicalement différent, cette jouabilité à la Wiimote, même quand on a des jeux qui sont portés...
Mais là, encore une fois,
sur les
ils
trois
ont fait
formats,
un coup de poker.
C'est un coup de
qui
poker.
Qui a très bien marché, mais ils auraient pu se planter.
Ah ben complètement, complètement. Mais en tout cas, bon, pour l'instant, Inch'Allah pour eux, ça marche bien. Est-ce que c'est pas la voie aussi que les autres constructeurs vont tenter peut-être de prendre, peut-être moins course à la puissance, mais course à
trouver une vraie direction différente.
Voilà, c'est ce que réussit finalement Sony un petit peu avec le Blu-ray. Aujourd'hui, la force de la PS3 par rapport à l'Xbox 360, c'est le Blu-ray dans l'absolu.
Oui, mais c'est pas une force qui est liée aussi directement au divertissement du jeu vidéo lui-même que sur la Wii. Le Blu-ray ne change pas ta manière de jouer.
Ah bah non, mais ça change le fait que tu choisis cette machine plutôt qu'une autre.
Oui, mais alors dans ces cas-là, c'est pareil. Je veux dire, à l'époque de la Super Nintendo, t'avais le mode 7, tu vois. Enfin, je veux dire.
Non, c'est pas pareil.
Là, c'est ce que je disais, c'est une façon d'avoir un argument supplémentaire pour squatter dans un salon, quoi.
Angel.
En même temps, Sony, en tant que marque et constructeur de téloches et de plein de trucs, se doit de proposer de la haute technologie. En termes d'image.
C'est là où je suis pas du tout d'accord, parce qu'on a vu avec l'arrivée du nouveau patron de Sony, pour la première fois un américain, nouvelle technologie, Aibo, ça marche pas, on tège. on gagne pas d'argent avec, on vire. Et sans aucune pitié, les écrans plasma, on fait plus d'argent avec, on vire et on passe qu'au LCD. Si la PS3, c'est un gouffre financier et que la prochaine, c'est encore un gouffre financier, ce sera fini. Ou en tout cas, pas sous cette forme-là. Ils feront pas de quartier, pas de pitié. Ils sont là pour faire de l'argent. S'ils peuvent faire de la qualité, oui, mais ils font tout pour faire de la qualité.
Ça fait partie aussi de ses volontés aussi de consolider tous les départements de Sony, parce que Sony était une boîte tentaculaire qui avait énormément de problèmes d'organisation, où les sous-boîtes, les Sony Pictures avec les, ne profitaient pas de leur force les uns les autres, alors
de synergie,
tous partie du même groupe, et ça fait partie des directions aussi. Donc Sony pour ça a des cartes à jouer, même si c'est compliqué. La console et les activités, c'est important.
Revenons sur la question que je vous posais tout à l'heure. Est-ce que la Wii va pas donner des idées quand même? Est-ce que la prochaine guerre, finalement, c'est pas réussir à trouver un système? Alors, ce sera peut-être pas une machine physique, ce sera peut-être via le réseau, ce sera peut-être un décodeur, j'en sais rien. Peut-être que ce sera, je sais pas, chez Sony, peut-être intégré dans leur prochaine gamme de télé LCD, j'en sais rien. Mais est-ce que c'est pas une spécificité qui fait que fatalement, si tu veux essayer ça, eh ben, tu te dois d'avoir des exclusivités?
À mon avis, la sortie des prochaines consoles, donc next-gen, enfin pour dire comme ça, donc Microsoft,
ça serait temps de le dire.
Et tellement lointaine. Qui peut se passer
alors, moi j'y crois pas du tout. Cycle de 10 ans, pour moi, c'est du pipeau.
C'est ce que voudrait
Sony commercialement, mais c'est ce qu'ils auront pas.
La machine a coûté tellement cher à faire que tu peux pas te permettre. Et donc, pour aller. Bah, après, bon, je me plante peut-être, mais.
Raison, Sony ne peut pas se permettre. Mais pourtant, c'est ce qui va se passer.
Donc, pour aller au bout du raisonnement, j'allais dire que la sortie de la prochaine console next-gen est en théorie donc tellement éloignée que de toute façon Nintendo aurait eu le temps de sortir une Wii 2 ou un truc comme ça.
C'est pour ça que je dis, aujourd'hui ils sont trois. On est tous d'accord, il y a trois constructeurs. Nintendo va pas attendre 10 ans avant de sortir une remplaçante de la Wii. Alors ce sera peut-être pas une remplaçante, hein. Ce sera peut-être une autre machine qui fera autre chose, etc. Je sais pas, hein. C'est peut-être pas une Wii 2, mais en tout cas une nouvelle machine de salon. Microsoft, c'est clair et net, va pas attendre encore 5 ans. C'est-à-dire que si on est à 2011, c'est le bout du bout du bout de ce qu'ils feront. Je pense qu'on va commencer à entendre parler de la next-gen chez Microsoft
dans
les deux ans à venir, en sachant que déjà, 2010, déjà dit, le prochain Halo est déjà en développement sur next-gen, donc sur la Xbox 720.
Ils sont graves dans la merde.
Non, c'est pas des rumeurs du tout. Hein. Là, c'est vraiment dit par le développeur. Très clairement, c'est développé chez Gearbox. Ils l'ont dit. Mais vraiment,
Non, c'est pas exactement développé chez Gearbox. Non.
Bon, enfin, il y a des assets qui sont faits chez Gearbox.
Il y a en fait un transfert de talent de chez Gearbox vers Microsoft en la personne de leur chef de technologie. Mais bon, bref.
Même, on le sait par rapport à Epic, qui parle de ces nouveaux moteurs Unreal, machin, Engine. Eux, ils prévoient pour
2011,
2012.
Mais eux, par exemple, tous leurs moteurs en multi-support.
Voilà, tout en multi-support.
Et c'est comme ça qu'ils l'ont marketé, c'est comme ça qu'ils gagnent aussi. C'est parce que le développeur se dit voilà, moi, ça me. Mais oui,
Square Enix
développe sur PC et ensuite, l'essentiel de ses assets, etc., tout ça, ils le font d'abord sur PC.
Avec un moteur qui est multi, hein, conçu comme ça dès la base.
Voilà, donc c'est juste pour justement ne plus avoir à payer des coûts de portage faramineux et assumer et embrasser à pleine bouche le multi-support, quoi. Donc oui.
Ce qui est clair, c'est que quoi qu'il advienne, d'ici 2012, ce qui est dans vraiment, c'est demain, hein, 2012, c'est moins de 4 ans, on a des nouvelles machines.
Mais l'euro.
Hein
tu... Non, c'est juste à dire que ce sera l'euro, mais
aussi. Voilà. Mais voilà, donc c'est dans vraiment pas longtemps.
Mais pour pouvoir avoir une machine qui, au niveau hardware, fait une différence, qui lui donne des exclusivités de fait, comme ça, comme là où il l'a fait là, faut-il avoir l'idée que les autres n'auront pas, et qui a cette idée en plus fonctionne. Donc.
Et on se rappelle combien Nintendo avait été vigilant à l'extrême pour dévoiler la Wiimote et cette nouvelle jouabilité jusqu'au dernier moment, puisque la Wii avait été dévoilée. Mais on savait, on n'avait pas vu les manettes. Oui, la révolution à l'époque. Ouais. Il avait commencé à montrer le design, à dire qu'on pourrait télécharger plein de vieux titres. Et tous les gamers étaient là, waouh, c'est génial, on pourra jouer à Super Mario, machin. Mais bon, elle sera pas très puissante, machin, mais vous verrez. Puis on a une surprise. Et c'est vraiment quelques mois avant le lancement de la console qu'on a su.
Oui, et puis il y a un modèle économique différent chez Nintendo des deux autres. Ils n'ont jamais perdu d'argent. Non. Au contraire, ils ont gagné des taxons.
Alors, c'est un
sujet. Ça va peut-être les faire réfléchir aussi.
C'est ce que j'allais dire. C'est un sujet un peu transversal, mais finalement, est-ce que vous pensez que fatalement les consoles next-gen vont être dans cette veine de la course à la puissance du côté de Microsoft et Sony, ou est-ce que peut-être qu'on va
au moins
ralentir
les deux, c'est sûr.
Au moins Microsoft.
Ouais.
Au moins Microsoft, en fait. Et il y a une tradition de recherche et développement chez Sony qui fait qu'ils veulent toujours faire avancer la technologie. Donc,
ouais, mais ça leur coûte tellement de plus en plus cher. Que...
Ouais, mais c'est, voilà, c'est comme ça que la boîte fonctionne, en tout cas.
Ouais, il faut bien qu'ils soient...
C'est comme ça, c'est, oui, ils veulent toujours être en avance sur toutes les technos, créer leur techno.
Tu vois, par exemple...
C'est une tradition de la boîte.
Excuse-moi, mais par exemple, tu vois, le sel, effectivement, tu vois, on dit la PS3 se vend pas super bien, mais en attendant, le sel, ils l'ont développé.
C'est ce qu'on a dit, la PS3 se vend bien, elle est éclipsée par le succès de la Wii.
Elle est éclipsée.
Éclipsée.
Eh, dis donc.
Éclipsée.
Mais donc, enfin, tu vois, la PS3 a coûté super cher à faire, mais en attendant, le sel, ils essayent de le refourguer à toutes les sources.
Tous leurs appareils.
Et voilà, et ils y arrivent de plus en plus, quoi. Donc finalement. La PS3, enfin, elle sert à plein de choses à part vendre des jeux, quoi.
Pour répondre précisément à ta question, moi, je dirais au moins Microsoft, enfin certainement les deux vont continuer une course à la technologie et de toute façon, quelque part même Nintendo, je pense, sera obligé aussi de
passer à l'HD, hein, ce serait bien.
Ça paraît évident, mais ils vont devoir quand même faire un peu mieux.
Ils passeront à l'HD quand ça coûtera pas cher, c'est tout.
Ils vont devoir faire un peu mieux que mettre deux Wii dans la prochaine console, tu vois ce que je veux dire.
Non, mais c'est GameCube, deux Wii.
Moi, je la vois pas finie encore, hein, la course à la techno, en fait.
Non, bien sûr, de toute façon, il y a toujours moyen de s'améliorer. Maintenant, est-ce que ça sera aussi déterminant pour la qualité de l'expérience ludique qu'avant, c'est pas sûr.
Ce qui est intéressant, et c'est un peu le fond de ma question sur les consoles un peu différentes et l'exemple de la Wii, c'est que finalement, regardons l'exemple des consoles, là on a parlé des consoles de salon, mais sur les consoles portables où on se retrouve avec la PSP
et la DS, tout est très clair et très défini.
Bah c'est très clair, il n'y a que des exclusivités, en tout cas en termes de style de jeu, de gameplay, etc. C'est-à-dire que même si le titre a le même nom,
s'il y a des franchises, enfin des licences,
les jeux n'ont rien à voir sur la PSP et rien à voir sur la DS. Et je serais même tenté de dire que maintenant il va commencer à falloir inclure aussi l'iPhone, qui est de plus en plus une console.
Mais tout le jeu mobile, c'est ce qui se passe au Japon.
Plateforme de jeu.
Au Japon, on joue de plus en plus sur un mode mobile.
Voilà. Et donc chacune ont leurs exclusivités parce que les deux approches sont très différentes. Enfin, et même j'ai envie de dire les trois, parce que très honnêtement, l'iPhone est en train de faire une vraie entrée sur le.
La seule différence qu'il y a entre les consoles portables et les consoles de salon en termes de division du marché, c'est que Microsoft n'est pas dans les consoles portables. Le jour où Microsoft lance une console portable, vraiment.
Et vous y croyez ça ?
Bah bien sûr, la suite du Zune, ça peut très bien être aussi quelque chose de similaire à ça.
Je leur souhaite un plus grand succès quand même, parce que 2,6% de part de marché, c'est showtime.
Le Zune, c'est le truc qui n'est jamais sorti en Europe.
Ça sort en 2009, monsieur.
Sérieux ?
Oui.
Mais si, il est sorti en.
Non, il n'est jamais sorti en Europe.
C'est vrai ? Non, moi je pensais qu'il était sorti, mais que tout le monde s'en foutait, enfin comme moi.
Il n'est pas sorti.
Non, mais tout le monde s'en fout, ça c'est
tout le monde s'en fout aussi.
Ah d'accord.
Ah non, c'est un fiasco.
Mais
cool, ça.
Donc bref, si Microsoft et ils y réfléchissent forcément, se lancent sur le marché du jeu mobile, on va se retrouver encore une fois avec trois acteurs sur une place où finalement il y a peut-être que deux manières d'être vraiment différents. Peut-être, je sais pas, mais si ça se trouve, quelqu'un aura une idée géniale et il y aura trois manières de faire du jeu vidéo de salon dans ces 10 prochaines années. Je sais pas.
Évidemment que non.
Évidemment que non.
Alors justement, on arrive à peu près à la fin de ce podcast. Je vais faire un petit tour de table à repasser. Je trouve ça toujours ridicule quand je dis ça, mais visiblement ça vous fait marrer, vous. Donc bon. Qui croit à l'avenir ?
Je ne sais pas dans quelle. Moi, je crois pas en l'avenir déjà, de base. De base.
Dans l'avènement de la console unique, cette fameuse console unique dont on nous rabat les oreilles depuis maintenant des années, mais finalement, est-ce qu'on n'a jamais été aussi proche ?
J'y crois absolument pas.
Julo, pas du tout.
Pas du tout.
Pourquoi ?
Bah pour les raisons que j'ai évoquées, parce que chacun. Enfin, en fait, j'y crois dans le cas d'un scénario où, en fait, à force de se taper sur la gueule, il y en a finalement un qui gagne et que l'autre abandonne, un peu comme la Dreamcast est morte à un moment. Sauf que la Dreamcast est morte au moment où il y avait un nouvel acteur sur le marché, donc finalement, ça n'a rien changé. Mais à moins qu'il y en ait un qui crève par chaos,
c'est nouveaux challengers. Il y aura toujours des nouveaux challengers.
Des Chinois, par exemple.
Par exemple.
Ah, bah les Chinois, oui, évidemment. L'Inde. Oui.
Non mais dans les faits, la console unique, ça veut dire la standardisation du jeu console, et donc ça veut dire que tu te retrouves en gros avec un PC, quoi. Parce que ou alors ça veut dire que tu dématérialises la plateforme.
Les consoles actuelles n'ont jamais été aussi proches d'un PC.
Tant qu'il y a des intérêts derrière le PC, il n'y a pas les intérêts économiques d'une boîte, etc. Le PC,
c'est un conglomérat de tas de trucs.
Voilà. Tant qu'il n'y aura pas, si tu veux, cette structure-là, ce sera impossible parce que chacun voudra imposer son hardware.
Et le fait d'avoir un hardware fermé présente des avantages qui, pour l'instant, ne peuvent pas être éclipsés autrement qu'en n'ayant plus besoin d'avoir du hardware vraiment développé chez l'utilisateur. Ouais, pour arriver à ça, il faut qu'il y ait derrière des serveurs de la mort et des lignes internet de la mort pour que les mecs ne fassent pas.
Ça viendra.
Extérieurise le plus
oui, possible. C'est ce que j'allais dire. Ça viendra.
Oui, mais pas dans les 10 ans à venir. Enfin, je pense
ah,
pas.
Mais là, j'ai pas dit forcément 10 ans. Mais 10 ans, c'est qu'une génération, quelque part.
Enfin, ouais.
Peut-être que dans 2-3 générations. Angel, alors attention. La console l'homme unique, qui ne croyait pas à l'avenir.
C'est comme la pensée unique, il n'y a que les cons qui signent. C'est profond.
Moi je dirais aimez-vous les uns les autres ou disparaissez. C'est peut-être le message qu'on envoie aux consoles.
Non, mais dans l'absolu, avoir une console unique, c'est... moi je pense que c'est très très bien parce que ça veut dire que c'est pas plus que sur les jeux. Mm. Si tu te fais plus chier avec ces questions de hardware, etc.
Ouais, mais en même temps, ça stoppera net toute possibilité de progrès. C'est-à-dire, tu vois,
tu peux la jouer sur les accessoires.
Ou de l'optimisation totale, justement.
Enfin, ouais, non, mais d'accord, non, mais si tu veux, à partir du moment où il y aura une seule console sur le marché, les mecs, ils vont pas se presser pour en sortir.
Ah, bah, c'est sûr que la suivante, effectivement, des cycles de 10 ans, oui, on va se manger. Mais est-ce que c'est vraiment un mal?
Bah,
c'est vrai que mais les joueurs aiment la nouveauté, l'excitation d'une nouvelle machine.
Si il y avait qu'un seul fabricant de bagnole sur le marché qui fabriquait qu'une seule bagnole, je pense qu'on roulerait tous encore en deux chevaux.
C'est pas pareil puisqu'une bagnole elle est là pour rouler seulement, alors que une console c'est pas Citroën,
c'est un support, ce qui nous passionne pas... c'est le jeu, c'est pas la console.
T'achètes pas tes bagnoles pour la qualité de leurs pneus,
ça se trouve t'achèteras que des nouvelles manettes.
Attends, tu me connais pas.
Non, mais ça se trouve, on n'achètera que des nouvelles manettes, des interfaces de
jeu.
Et la console en elle-même, elle sera déportée sur un serveur qui donc sera peut-être mis à jour régulièrement, mais qu'on n'achètera jamais en fait.
Ouais.
Toi aussi.
Bon, je vais
rester. Non, mais pourquoi pas.
Non, mais,
si.
Non, mais franchement, Julo, dis oui, je t'en prie.
Oui.
Ah, moi, je dis oui, mais j'ai super pas écouté.
Bon, bah, je vais vous le répéter.
Ah non.
Non, mais peut-être qu'on achètera. Parce que finalement, aujourd'hui, à part avoir une machine,
comme
un objet.
Comme la VOD, quoi, en gros. La VOD, voilà.
Exactement.
Tu l'achètes depuis ton canapé.
Et la VOD, ils peuvent te passer les films en HD dans quelques mois, tous. Après, ils te proposeront peut-être des choses. Pour toi, rien ne change, à part que tu payes un prix. Mais toi, t'as rien acheté en plus. Il n'y a pas de boîte en plus ou quoi que ce soit.
Il y a d'autres modèles aussi. Regarde, par exemple, en téléphonie mobile ou les terminaux. En fait, parce qu'une console, ça revient finalement à ça. Tu les payes plus au bout d'un moment. C'est-à-dire que on est quand même dans une société qui s'oriente sur le service. C'est-à-dire que ce que t'achètes, c'est le service ou le contenu, mais pas le contenant. De plus en plus. Ton téléphone portable, à part si c'est un iPhone parce que c'est Apple et parce que machin, et qu'il faut
et encore
Apple.
Maintenant il y a un changement politique même sur
ouais,
iPhone.
Ouais, mais tu le payes pas, c'est donc ça se trouve on peut très bien aussi imaginer des consoles similaires que tu ne paieras pas et,
ouais, ouais.
Et
bah oui, le principe des téléphones c'est un bon exemple, hein. Les téléphones sont financés par les opérateurs
et par exemple pour reprendre le cas de l'iPhone parce que c'est assez intéressant, Apple se fait pas de l'argent avec le produit iPhone mais
c'est
avec
pas Apple
l'App Store et ce genre de commerce, donc une fois de plus, du contenu.
Oui.
Pas le contenant.
Cela dit, Apple se fait du fric parce qu'Apple vend les iPhones au même prix qu'avant à Orange. C'est Orange qui les finance. Voilà.
Alors donc, si je me comprends, on va terminer ce podcast sur les exclusivités en parlant du business plan d'Apple sur les iPhones. Et là, c'est la classe.
Oui, c'est possible. Parce que je suis en train de regarder ma petite liste et j'ai l'impression qu'on a un peu fait le tour, en fait, mes amis.
Il est temps de se quitter.
Et je crois qu'il est temps de se quitter, effectivement, parce que encore, nous ne sommes qu'à la moitié de la semaine, nous ne sommes que mercredi, il reste encore plein de news incroyables cette semaine. Non, enfin bon, c'était un peu le point qu'on pouvait faire sur les exclusivités. Vous voyez, c'est vraiment mouvant. Je vous rappelle, hein, on avait déjà fait un podcast un peu similaire, en tout cas, on avait soulevé la question en mars 2007, donc il y a plus d'un an et demi, et on est arrivé à une conclusion qui approche, mais avec pas mal de choses.
Maintenant, on a des faits, c'est-à-dire qu'effectivement, au niveau des éditeurs tiers, il n'y a plus d'exclusivité, et il y a très peu de chances pour qu'il y en ait d'autres.
Voilà, il y avait des suppositions qu'on était en train d'émettre qui sont en train de se concrétiser. Donc peut-être que les choses qu'on a dit encore aujourd'hui sur console unique, sur le contenu dématérialisé, sur le fait que l'exclusivité passe vraiment quasiment exclusivement sur du contenu téléchargeable, que peut-être que ça passerait par des consoles qui opterait pour une nouvelle jouabilité, un nouveau gameplay à la Wii, et bah peut-être que tout ça va aussi se concrétiser. D'ailleurs, je suis persuadé que c'est le cas, puisque à peu près tous les développeurs et les constructeurs écoutent les podcasts de Gameblog et forcément bâtissent leur console autour de nos dires.
Ne rigolez pas, c'est vrai.
C'est complètement vrai.
Ils nous demandent notre avis.
Et si vous ne nous croyez pas, ça ira très mal. Donc, en tout cas, ce sont nos avis. À vous maintenant de débattre sur les forums. Vous avez probablement des visions peut-être un petit peu différentes. À vous de voir un petit peu ce que vous pensez.
Bah oui, forcément.
Puisqu'on a raison.
Tout à fait. Mais en tout cas, on vous laisse débattre parce qu'on est généreux quand même. Et que nous sommes en démocratie. Donc, n'hésitez pas. Hein. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de la fin des exclusivités? Est-ce que c'est forcément une mauvaise chose, comme on le pensait, hein, il faut le dire, il y a encore quelques mois, quelques années. On mettait vraiment toujours ça sur le dos de... Oui, mais pas d'optimisation, c'est dommage. On voit qu'aujourd'hui, finalement, bon, il y a un vrai nivellement en fait vers le haut, ou comme le disait justement Raon, on ne s'en rend pas compte en tout cas, donc c'est plutôt positif, et que quelque part, de manière très réaliste, et après je te donne la parole Angèle parce que tu lèves le doigt depuis à peu près 3 minutes, et que tu es très sage, et c'est louable, et bien peut-être que je ne sais plus ce que je voulais dire.
Voilà, voilà, bien joué, bien joué. Alors Angèle,
donc,
vas-y.
Angèle,
alors,
c'est à toi, mon Dieu.
Ce que je viens de percuter, je viens de voir en fait un effet ultra positif dans la console unique, c'est que la guerre des consoles serait enfin finie, et les forums du monde entier respireraient.
Oui, mais alors,
non, mais à
parce
mort.
Que, parce qu'ils, non, parce qu'ils trouveront un autre truc sur ce bat, genre ah, les jeux c'est de la merde, non, mais, les jeux Ubi c'est de la merde, non.
Mais s'il n'y a plus de guerre des consoles, que deviendrait AHL?
Ok, bah, salut. Écoute,
Bon, j'ai envie de dire là-dessus, le podcast numéro 68 se conclut dans la joie et la bonne humeur, en tout cas.
Comme toujours.
Comme toujours, la seule chose à retenir, c'est que l'important, c'est les jeux et pas les consoles. Donc finalement, console unique ou pas, peut-être que dans quelques années, on se posera même pas la question.
Et ça, c'est un discours, j'ai envie de dire, qu'on tient depuis beaucoup plus longtemps que cette question.
Exactement, et qu'on tiendra, je crois, un petit peu toute notre vie. Voilà, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, en tout cas pour les podcasts. Un nouveau podcast, ce sera le 69, donc forcément des trucs incroyables qui se passeront. Oh. Vous allez voir, et moi j'ai envie de dire, oui, portez-vous bien.
Oh.
Mais surtout,
joue bien.
Ciao, à la semaine prochaine.
Salut les enfants.
Bisous.
Ciao.